Chaque jour, on a ce réflexe d'aller dans la boîte aux lettres. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de courriers électroniques, mais on va quand même voir chaque jour dans sa boîte aux lettres pour voir si c'est du courrier. Et certains courriers nous font plaisir, une certaine forme de courrier nous fait plaisir, comme par exemple les cartes d'anniversaire qui nous rappellent que nous n'allons pas en rajeunissant. Ou bien encore... une carte postale qui nous vient d'un endroit idyllique, exotique, qu'un ami nous envoie pour nous faire un peu rêver. Ou encore l'invitation à un mariage. Ah, puis il y a aussi du courrier, des lettres qui nous laissent de marbre, qui nous laissent indifférents, comme la majorité des publicités, des folders. On n'ouvre parfois même pas les enveloppes, et on les jette directement dans la corbeille à papier. Et puis, il y a du courrier qui nous laisse vraiment, qui suscite en nous de la colère, qui nous rend fous en quelque sorte, qu'on a envie de déchirer, qu'on a envie de réduire en boulettes, comme le courrier sur lequel il est écrit « pro justicia, procès, facture à payer », etc. Donc, on découvre toute une série de lettres dans ces boîtes aux lettres. Le texte que j'aimerais parcourir avec vous ce matin se trouve dans la deuxième lettre de Paul, dans la deuxième épître de Paul, aux Corinthiens encore, 2 Corinthiens, au chapitre 3, versets 1 à 4. Commençons-nous de nouveau à nous recommander, 2 Corinthiens. Ah, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui suis trompé. Je me suis trompé. Deux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Alors dans ce passage, l'apôtre Paul va développer deux points qu'on va considérer à partir d'une seule et même image, à savoir celle d'une lettre. Dans son premier développement, l'apôtre va défendre sa position, sa condition d'apôtre de Jésus-Christ. Et pour bénéficier d'une meilleure compréhension du contexte, on peut faire le lien avec le verset, on va simplement en faire la lecture, avec le verset 17 du chapitre qui précède, où Paul écrit « Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu » que nous parlons en Christ devant Dieu. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et dans son deuxième développement, Paul va mettre en évidence le témoignage chrétien des membres de l'Église de Corinthe. Deux points. Et le premier point, tout d'abord, c'est celui où Paul va justifier sa condition d'apôtre, va justifier l'autorité de son apostolat. Il est fort probable que les faux docteurs, les faux prophètes, les faux docteurs qui sont présents dans l'église de Corinthe troublaient les Corinthiens en remettant en question, en quelque sorte, l'autorité apostolique de l'apôtre Paul. Est-ce que c'est vraiment un apôtre, comme il le prétend ? Est-ce qu'il bénéficie de lettres de recommandation pour venir vous parler, vous enseigner ? Et non seulement il remettait en question, en doute, la condition d'apôtre de Paul, mais, de surcroît, il falsifiait ses enseignements. Alors ces faux docteurs, ces faux prophètes avaient probablement attiré la confiance de ces Corinthiens par le biais de lettres de recommandation qui avaient été rédigées et délivrées à la légère et sans aucun discernement de la part d'autres communautés. Et l'apôtre Paul de dire, d'écrire, avons-nous besoin, comme quelques-uns, allusion faite aux faux prophètes, de lettres de recommandation auprès de vous ? Avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ? Non pas que l'apôtre Paul soit opposé au principe de ces lettres de recommandation, puisque dans d'autres circonstances, il va les utiliser. On voit ça notamment en Romains chapitre 16, verset 1, et en Colossiens chapitre 4, verset 8 à 10. Et de nos jours encore, d'ailleurs, même si ça se raréfie, on utilise encore ces lettres de recommandation. Je me souviens, il y a quelques années encore, quand quelques membres de la communauté partaient en congé, en vacances, en France ou en Suisse ou que sais-je, eh bien, elles demandaient aux responsables de leur écrire une lettre de recommandation pour pouvoir participer pleinement au culte qu'elles allaient fréquenter lorsqu'elles étaient en vacances. Donc, l'apôtre n'est pas contre ce genre de recommandation, n'est pas contre ce genre de lettre, mais il veut utiliser des arguments plus solides, plus forts et plus convaincants que ceux qu'utilisent ses détracteurs. Et c'est la raison pour laquelle, pour défendre son statut d'apôtre de Jésus-Christ, il ne va pas se contenter d'un document périssable qui est écrit par la main d'hommes faillibles, d'hommes en proie à l'erreur, sujet à l'erreur. Mais ce sont les membres de l'Église de Corinthe eux-mêmes qui l'ont entendu, qui l'ont vu, qui l'ont apprécié, qui vont lui servir de lettre de recommandation. Vous êtes, écrit Paul, notre lettre, vous êtes la lettre écrite par notre ministère. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela veut dire que par leur vie nouvelle en Christ, accomplie par le travail missionnaire de l'apôtre Paul, par le canal de Paul, les Corinthiens constituent la preuve manifeste que son ministère n'est pas un faux. Alors les Corinthiens, et surtout les faux docteurs, ne peuvent être que confondus et reconnaître avec objectivité une telle évidence, naturellement. Cette recommandation est effectivement nettement plus convaincante que n'importe quel bout de parchemin ou de papyrus. Vous êtes notre lettre, vous les Corinthiens, vous êtes la lettre de Christ écrite par notre ministère. Alors, Paul pouvait écrire quelque chose de semblable dans son épître précédente. On ne va pas lire, on ne va pas chercher. Je vais simplement vous en faire la lecture, au chapitre 9, verset 2. « Si pour d'autres, écrit Paul, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau, la marque de mon apostolat dans le Seigneur. » Les Corinthiens étaient donc la lettre de recommandation de l'apôtre Paul lui-même. Et on en arrive au deuxième point que Paul développe dans ce passage, tout en gardant cette même image, celle d'une lettre. À côté des mots « Vous êtes notre lettre, écrite par notre ministère », qui prouve l'authenticité de la condition d'apôtre de Paul. Paul rajoute et poursuit « Connu et lu de tous les hommes, vous êtes la lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Alors, Paul aborde donc ici la question du témoignage chrétien, la marche en nouveauté de vie qui est censée vivre, qui est censée mener les Corinthiens. Alors, par cette métaphore qu'on a lue, table de pierre en référence à la loi de Moïse, table de chair en référence à la loi de Christ, à la loi de l'Esprit, eh bien Paul évoque, rappelle ces promesses faites aux prophètes de l'Ancien Testament concernant une alliance nouvelle par laquelle Dieu allait écrire lui-même sa loi dans le cœur de ses enfants. Et on peut lire Jérémie 31, verset 3, si tu le trouves. Oui, 31, verset 3. Et là, le prophète Jérémie écrit, hein, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais c'est pas ça. C'est pas la référence. Alors, je vais simplement faire la lecture du verset. Mais voici l'alliance, c'est peut-être Joël chapitre 2. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Vous êtes la lettre de Christ, écrite sur des tables de chair, sur les cœurs, écrit Paul. Alors, c'est aussi cette même promesse qu'annonce, mais on ne va pas le lire, Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Paul démontre, donc en développant son deuxième point, que la lettre, c'est-à-dire la vie de Christ, conduite, dirigée par son esprit, est écrite sur le cœur de chaque membre de l'Église de Corinthe. Elle est écrite sur le cœur de chaque membre de l'Église de Corinthe, mais elle est aussi écrite dans le cœur de chaque chrétien qui vit aussi sous le régime de la Nouvelle Alliance. La loi, la vie de Christ, la lettre de Christ, l'esprit de Christ, la loi de Christ, la loi de la lettre est aussi écrite dans mon cœur. La lettre de Christ est également écrite dans le cœur de chacun d'entre vous. Alors, les chrétiens de Corinthe étaient donc une lettre dans un sens double, dans un double sens. D'une part, ils étaient la preuve manifeste qui attestait que le ministère de Paul était un ministère venu de Dieu. Et d'autre part, ils étaient tous des lettres vivantes que leurs contemporains pouvaient lire afin d'y découvrir et de recevoir le message de Jésus-Christ. De par sa manière de vivre, chaque chrétien devrait être une lettre de Dieu pour le monde. L'apôtre Paul dit « Vous êtes la lettre de Christ écrite sur des tables de chair, sur les cœurs. » Je lisais dans un vieil almanach, dans une vieille revue missionnaire, l'histoire d'un jeune homme qui était parti dans une dans une contrée lointaine en Afrique, dans une peuplade lointaine. Et quand il est arrivé dans la station missionnaire, eh bien, il a éprouvé les pires difficultés à assimiler la langue locale. Les gens ne pouvaient pas le comprendre dans ce qu'il disait, mais les villageois pouvaient le comprendre dans ce qu'il faisait. Et un jour, il y a un villageois qui a posé cette question, mais qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Et alors quelqu'un, en pointant du doigt l'emplacement où était assis le jeune homme qui s'appelait Ray, eh bien, lui dit, être chrétien, c'est vivre comme Monsieur Ray. Alors, il ne savait bien évidemment pas, ces villageois, lire et comprendre les évangiles, mais il pouvait très bien comprendre l'évangile selon Ray. Il pouvait bien comprendre l'évangile selon Ray. Ray, donc, était en quelque sorte une lettre de Christ pour ceux qu'il côtoyait. Quelqu'un a écrit ceci, la première traduction de la Bible. Vous savez, c'est laquelle? Eh bien, la première traduction, je vais faire la lecture parce que je risque d'endommager la citation. La première traduction de la Bible que lisent nos contemporains est celle de nos vies. La première traduction de la Bible que lisent nos contemporains est celle de nos vies. Alors le prédicateur Alexander McLaren, pour mentionner une autre citation, 1826-1910, rejoint cette idée lorsqu'il écrit « La conception de Dieu que se fait le monde est surtout basée sur ce qu'ils observent chez ceux qui disent appartenir à la famille de Dieu. Les gens nous lisent beaucoup plus qu'ils ne lisent la Bible. Les gens nous lisent beaucoup plus qu'ils ne lisent la Bible. » Le réformateur suisse Zwingli a écrit « L'exemple vivant nous apprend plus que 100 000 paroles. » L'exemple vivant nous apprend plus que 100 000 paroles. Et voici ce que répondit un homme lorsqu'on lui demanda quel évangile il préférait. Il répondit, l'évangile selon ma mère. Tant sa mère l'avait élevé dans les valeurs chrétiennes, tant sa mère avait été d'un témoignage positif pour lui et l'avait amené à la foi chrétienne. L'évangile selon ma mère. Et John Wesley a dit quelque chose de semblable lorsqu'il dit « En ce qui concerne le christianisme, j'en ai appris davantage de ma mère que de tous les théologiens d'Angleterre, que de tous les savants chrétiens qu'on trouve en Angleterre. J'en ai appris davantage de ma mère que de tous les théologiens d'Angleterre. Sa mère était une lettre de Christ que son fils a pu lire. » Que son fils, à travers laquelle son fils a pu découvrir le Christ Jésus et son salut. Un autre témoignage de l'histoire, qui est un peu plus long, l'orateur athénien Aristote écrivait ceci à l'empereur Adrien vers l'an 130 de notre ère. Les chrétiens connaissent Dieu et ont confiance en lui. Ils veulent du bien à leurs ennemis. Leurs femmes vivent dans la pureté et leurs filles dans la réserve. Les hommes s'abstiennent de tout mariage illégal et de toute impureté. S'ils possèdent des femmes ou des enfants esclaves, ils les persuadent de devenir chrétiens par amour pour eux. Dès lors, ils ne font plus de distinction et les appellent tous frères. Ils s'aiment les uns les autres. Ils ne refusent pas d'aider les veuves. Ils défendent l'orphelin contre ceux qui l'oppriment. L'homme riche donne sans murmure à celui qui est pauvre. Si l'un d'entre eux est dans la misère et qu'il n'ait pas suffisamment de nourriture, il jeûne 2 ou 3 jours pour pouvoir lui donner sa subsistance. Ils obéissent scrupuleusement aux ordres de leur Messie. Chaque matin et à toute heure, Ils rendent grâce à Dieu pour son amour à leur égard. À cause d'eux, le monde et rayonnant de joie, de beauté, pardon. Ainsi, ils apprennent à se conduire avec justice. Et de conclure dans sa lettre, en vérité, ils forment un peuple nouveau et il y a en eux quelque chose de divin. Quel beau témoignage! Quelle magnifique lettre ces chrétiens ont-ils pu laisser à leurs contemporains? Quelle lettre remarquable! L'apôtre Paul dit, vous êtes la lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. Mais malheureusement, des récits comme ceux que nous venons de citer sont devenus de plus en plus rares de nos jours. Quelle lettre de Christ présentons-nous aujourd'hui à ceux qui nous côtoient, à ceux qui nous voient vivre ? La lettre de Christ que nous présentons n'est-elle pas finalement, faut-il le reconnaître, à notre déshonneur, loin de son modèle original ? L'évangéliste Moody disait ceci, « Beaucoup de chrétiens sont la seule Bible pour beaucoup de gens dans le monde et de poursuivre, mais plusieurs d'entre eux auraient bien besoin d'être révisés. » C'est vrai, malheureusement. Que de travers, malheureusement, dans nos vies. Parfois. On demanda un jour à Gandhi. Gandhi, ce prix Nobel de la paix, leader spirituel en Inde, avocat. Monsieur Gandhi, vous citez souvent les paroles du Christ, mais il semble que vous refusiez systématiquement, si catégoriquement, de devenir son disciple. Et Gandhi de répondre, « Oh, je ne rejette pas le Christ, j'admire le Christ. » C'est juste que pour beaucoup, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre vous chrétiens, vous êtes si différents du Christ. L'aumônier. Bon, là on remonte au 15e siècle au moins. Bartholomé, c'était un homme de Dieu. Il a accompagné les conquistadors espagnols en Amérique du Sud et il a participé notamment à la fameuse controverse de Valladolid, mais on ne va pas en parler maintenant. Et il a un jour demandé, alors qu'il était installé depuis plusieurs années sur le sol américain, sud-américain, à un Indien, il a demandé un jour mais s'il se sentait déjà un peu chrétien. Et l'Indien lui a répondu, « Oui, je me sens déjà un peu chrétien, car je sais déjà mentir un peu. » Et pourtant, Paul écrit, « Vous êtes la lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. » Quel genre de lettre les gens qui nous entourent peuvent-ils lire en nous? Une lettre qui honore Jésus ou bien une lettre qui le déshonore? Une lettre sur laquelle ils peuvent lire amour, joie, paix, pardon, honnêteté, probité, confiance, vérité, générosité, partage, humilité, ou une lettre sur laquelle ils lisent haine, amertume, violence, mensonge, égoïsme, orgueil, jalousie, esprit de rivalité, indifférence, immoralité, médisance. Par nos vies qui sont lues des autres, on peut donner soit l'envie aux gens de découvrir le Christ, de lire le Christ, ou pas. Est-ce que ma vie est une lettre de référence pour le Christ ? Herman Melvin, et on va terminer par là, une dernière citation. Écrivain chrétien a écrit un jour ceci. Tu écris un évangile chaque jour, un chapitre à la fois, par les actions que tu poses et les paroles que tu dis. Les autres lisent ce que tu écris. Quel évangile passe par toi? Tu écris un évangile chaque jour, un chapitre à la fois, par les actions que tu poses et les paroles que tu dis. Les autres lisent ce que tu écris. Quel est l'évangile qui passe par toi? Et Paul de dire, oui, vous êtes la lettre de Christ. Je suis la lettre de Christ. Nous sommes la lettre de Christ. Vous êtes la lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. Quel message transmettons-nous à tous ceux qui nous voient vivre, à tous ceux qui nous entourent?